Grégoire Chauret, les grands initiés, Moïse, chapitre 4, la vision du Sinaï. Une sombre masse de granit, si nue, si ravinée sous la splendeur du soleil, qu'on la dirait sillonnée d'éclairs et sculptée par la foudre. C'est le sommet du Sinaï. Le trône d'Élohim, disent les enfants du désert. En face, une montagne plus basse, les rochers du Serbal, abrupts et sauvages aussi. Dans ses flancs, des mines de cuivre, des cavernes. Entre les deux montagnes, une vallée noire, un chaos de pierres, que les Arabes appellent l'Horeb, l'Horeb de la légende sémitique. Elle est lugubre, cette vallée de désolation, quand la nuit tombe avec l'ombre du Sinaï. Plus lugubre encore, quand la montagne se coiffe d'un casque de nuages, d'où s'échappent des lueurs sinistres. Alors un vent terrible souffle dans l'étroit couloir. On dit que là, Élohim renverse ceux qui essaient de lutter avec lui et lance dans les gouffres où s'effondrent les trombes de pluie. Là aussi, disent les Madianites, errent les ombres malfaisantes des géants, des Réphaïm qui font crouler des rochers sur ceux qui tentent de gravir le lieu saint. La tradition populaire veut encore que le dieu du Sinaï apparaisse quelquefois dans le feu fulgurant, comme une tête de méduse à peine d'aigle. Malheur à ceux qui voient sa face. Le voir, c'est mourir. Voilà ce que racontaient les nomades le soir dans leur récit sous la tente, quand dorment les chameaux et les femmes. La vérité est que seuls les plus hardis parmi les initiés de Jéthro montaient à la caverne du Serbal et y passaient souvent plusieurs jours dans le jeûne et la prière. Des sages de l'Idumée y avaient trouvé l'inspiration. C'était un lieu consacré depuis un temps immémorial aux visions surnaturelles, aux Elohim ou esprits lumineux. Aucun prêtre, aucun chasseur ne consentit à y conduire le pèlerin. Moïse était monté sans crainte par le ravin d'Horeb. Il avait traversé d'un cœur intrépide la vallée de la mort et son chaos de rochers. Comme tout effort humain, l'initiation a ses phases d'humilité et d'orgueil. En gravissant les marches de la montagne sainte, Moïse avait atteint le sommet de l'orgueil, car il touchait au sommet de la puissance humaine. Déjà, il croyait se sentir un avec l'être suprême. Le soleil, d'un pourpre ardent, s'inclinait sur le massif volcanique du Sinaï, et les ombres violettes se couchaient dans les vallées. Quand Moïse se trouva à l'entrée d'une caverne, dont une maigre végétation de térébinthe protégeait l'entrée. Il s'apprêtait à y pénétrer, mais il fut comme aveuglé par une lumière subite qui l'enveloppa. Il lui sembla que le sol brûlait sous lui et que les montagnes de granit s'étaient changées en une mer de flammes. À l'entrée de la grotte, une apparition aveuglante de lumière le regardait et du glaive lui barrait la route. Moïse tomba foudroyé, la face contre terre. Tout son orgueil s'était brisé. Le regard de l'ange l'avait transpercé de sa lumière. Et puis, avec ce sens profond des choses qui s'éveillent dans l'état visionnaire, il avait compris que cet être allait lui imposer des choses terribles. Il eût voulu échapper à sa mission et rentrer sous terre comme un reptile misérable. Mais une voix dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici. » « Ne t'approche point d'ici. Déchausse les souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Moïse cacha son visage dans ses mains. Il avait peur de revoir l'ange et de rencontrer son regard. Et l'ange lui dit « Toi qui cherches Élohim, pourquoi trembles-tu devant moi? Qui es-tu? un rayon d'Élohim, un ange solaire, un messager de celui qui est et qui sera. Qu'ordonnes-tu? Tu diras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous pour vous retirer du pays de servitude. Qui suis-je, dit Moïse, que je retire les enfants d'Israël de l'Égypte? Va, dit l'ange, car je serai avec toi. Je mettrai le feu d'Élohim dans ton cœur et son verbe sur tes lèvres. Depuis 40 ans, tu l'évoques. Ta voix a retenti jusqu'à lui. Voici, je te saisis en son nom, fils d'Élohim, tu m'appartiens à jamais. Et Moïse, enhardi, s'écria, « Montre-moi, Élohim, que je voie son feu vivant. » Il releva la tête, mais la mer en flammes s'était évanouie, et l'ange avait fui comme l'éclair. Le soleil était descendu sur les volcans éteints du Sinaï. Un silence de mort planait sur le val d'Horeb, et une voix qui semblait rouler dans l'azur et se perdre dans l'infini disait « Je suis celui qui suis ». Moïse sortit de cette vision comme anéanti. Il crut un instant que son corps avait été consumé par le feu de l'éther, mais son esprit était plus fort. Quand il redescendit vers le temple de Jéthro, il se trouva prêt pour son œuvre. Son idée vivante marchait devant lui comme l'ange armé du glaive de feu. Chapitre 5. L'Exode, le désert, magie et théurgie. Le plan de Moïse était un des plus extraordinaires, des plus audacieux comme n'est jamais conçu. Arracher un peuple au joug d'une nation aussi puissante que l'Égypte, le mener à la conquête d'un pays occupé par des populations ennemies et mieux armées, le traîner pendant 10, 20 ou 40 ans dans les déserts, le brûler par la soif, l'exténuer par la faim, le harceler comme un cheval de sang sous les flèches des Hittites et des Amalécites prêts à le tailler en pièces, l'isoler avec son tabernacle de l'Éternel au milieu de ces nations idolâtres, lui imposer le monothéisme avec une verge de feu, et lui inspirer une telle crainte, une telle vénération de ce Dieu unique, qu'il s'incarna dans sa chair, qu'il devint son symbole national, le but de toutes ses aspirations et sa raison d'être. Telle fut l'œuvre inouïe de Moïse. L'Exode fut concerté et préparé de longue main par le prophète, les principaux chefs israélites et Jéthro. Pour mettre son plan à exécution, Moïse profita d'un moment où Menephta, son ancien compagnon d'études devenu pharaon, dut repousser l'invasion redoutable du roi des Libyens, Mermaïdou. L'armée égyptienne tout entière occupée du côté de l'ouest ne put contenir les Hébreux et l'émigration en masse s'opéra paisiblement. Voilà donc les bénis Israël en marche. Cette longue file de caravanes, portant les tentes à dos de chameaux, suivie de grands troupeaux, s'apprête à contourner la mer Rouge. Ils ne sont encore que quelques milliers d'hommes. Plus tard, l'émigration se grossira de toutes sortes de gens, comme dit la Bible. Cananéens, Édomites, Arabes, Sémites de tout genre, attirés et fascinés par le prophète du désert, qui de tous les coins de l'horizon les évoque pour les pétrir à sa église. Le noyau de ce peuple est formé par les bénis Israël, hommes droits mais durs, obstinés et rebelles. Leur âme ou leurs chefs leur ont enseigné le culte de Dieu unique. Ils constituent chez eux une haute tradition patriarcale. Mais dans ces natures primitives et violentes, le monothéisme n'est encore qu'une conscience meilleure et intermittente. Dès que leur mauvaise passion se réveille l'instinct du polythéisme si naturel à l'homme reprend le dessus. Alors, il retombe dans les superstitions populaires, dans la sorcellerie et dans les pratiques idolâtres des populations voisines d'Égypte et de Phénicie que Moïse va combattre par des lois draconiennes. Autour du prophète qui commande à ce peuple, il y a un groupe de prêtres présidé par Aaron, son frère d'initiation, et par la prophétesse Marie, qui représente déjà dans Israël l'initiation féminine. Ce groupe constitue le sacerdoce. Avec eux, 70 chefs élus ou initiés laïcs se servent autour du prophète de Yévé, qui leur confiera sa doctrine secrète et sa tradition orale, qui leur transmettra une partie de ses pouvoirs et les associera quelquefois à ses inspirations et à ses visions. Au cœur de ce groupe, on porte l'arche d'or. Moïse en a emprunté l'idée aux temples égyptiens, où elle servait d'arcane pour les livres théurgiques. Mais il l'a fait refondre sur un modèle nouveau pour ses dessins personnels. L'arche d'Israël est flanquée de 4 chérubes en or, semblables à des sphinx et pareils aux 4 animaux symboliques de la vision d'Ézéchiel. L'un a une tête de lion, l'autre une tête de bœuf, le troisième une tête d'aigle et le dernier une tête d'homme. Il personnifie les 4 éléments universels, la terre, l'eau, l'air et le feu, ainsi que les 4 mondes représentés par les lettres du tétragramme divin. De leurs ailes, les chérubes recouvrent le propitiatoire. Cette arche sera l'instrument des phénomènes électriques et lumineux produits par la magie du prêtre d'Osiris, phénomènes qui, grossis par la légende, enfanteront les récits bibliques. L'arche d'or renferme en outre le Sefer Bereshit, ou livre de cosmogonie, rédigé par Moïse en hiéroglyphe égyptien, et la baguette magique du prophète, appelée verge par la Bible. Elle contiendra aussi le livre de l'Alliance ou la loi du Sinaï. Moïse appellera l'arche le trône d'Élohim, car en elle repose la tradition sacrée, la mission d'Israël, l'idée de Yévé. Quelle constitution politique Moïse donna-t-il à son peuple? À cet égard, il faut citer l'un des passages les plus curieux de l'Exode. Ce passage a l'air d'autant plus ancien et plus authentique qu'il nous montre le côté faible de Moïse, sa tendance à l'orgueil sacerdotal et à la tyrannie théocratique, réprimée par son initiateur éthiopien. Le lendemain, comme Moïse siégeait pour juger le peuple et que le peuple se tenait devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir, le beau-père de Moïse, ayant vu tout ce qu'il faisait au peuple, lui dit « Qu'est-ce que tu fais au peuple? D'où vient que tu es seul assis et que le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Et Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour s'enquérir de Dieu. Quand ils ont quelque cause, ils viennent à moi. Alors je juge entre l'un et l'autre, et je leur fais entendre les ordonnances de Dieu et ses lois. » Mais le beau-père de Moïse lui dit « Tu ne fais pas bien. Certainement tu succomberas, et toi, et même ce peuple qui est avec toi, car cela est trop pesant pour toi, et tu ne sauras faire cela à toi seul. Écoute donc mon conseil, je te conseillerai et Dieu sera avec toi. Sois pour le peuple auprès de Dieu et rapporte les causes à Dieu. Instruis-les des ordonnances et des lois et fais-leur entendre la voie par laquelle ils doivent marcher et ce qu'ils auront à faire. Et choisis d'entre tout le peuple des hommes vertueux, craignant Dieu, des hommes véritables, haïssant le gain déshonnête et établit sur eux des chefs de milliers, des chefs de centaines, des chefs de cinquantaines et des chefs de dizaines, et qu'il juge le peuple en tout temps, mais qu'il te rapporte toutes les grandes affaires et qu'il juge toutes les petites causes. Ainsi, ils te soulageront et ils porteront une partie de la charge avec toi. Si tu fais cela, et Dieu te le commande, tu pourras subsister, et même tout le peuple arrivera heureusement en son lieu. Moïse, donc, obéit à la parole de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Il ressort de ce passage que dans la constitution d'Israël établie par Moïse, le pouvoir exécutif était considéré comme une émanation du pouvoir judiciaire et placé sous le contrôle de l'autorité sacerdotale. Tel fut le gouvernement légué par Moïse à ses successeurs sur le sage conseil de Jéthro. Il resta le même sous les juges, de Josué à Samuel jusqu'à l'usurpation de Saül. Sous les rois, le sacerdoce, déprimé, commença à perdre la véritable tradition de Moïse qui ne survécut que dans les prophètes. Nous l'avons dit, Moïse ne fut pas un patriote, mais un dompteur de peuple, ayant en vue les destinées de l'humanité entière. Israël n'était pour lui qu'un moyen. La religion universelle était son but, et par-dessus la tête des nomades, sa pensée allait au temps futur. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la mort de Moïse, l'histoire d'Israël ne fut qu'un long duel entre le prophète et son peuple. Moïse conduisit d'abord les tribus d'Israël au Sinaï, dans le désert aride, devant la montagne consacrée à Élohim par tous les Sémites, où lui-même avait eu sa révélation. Là où son génie s'était emparé du prophète, le prophète voulut s'emparer de son peuple et lui imprimer au front le sceau de Yahvé. Les 10 commandements, puissant résumé de la loi morale et complément de la vérité transcendante, renfermés dans le livre hermétique de l'Arche. Rien de plus tragique que ce premier dialogue entre le prophète et son peuple. Là se passèrent des scènes étranges, sanglantes, terribles, qui laissèrent comme l'empreinte d'un fer chaud dans la chair mortifiée d'Israël. Sous les amplifications de la légende biblique, on devine la réalité possible des faits. L'élite des tribus est campée au plateau de Pharan, à l'entrée d'une gorge sauvage qui conduit au rocher du Serbal. La tête menaçante du Sinaï domine ce terrain pierreux, volcanique, convulsé. Devant toute l'assemblée, Moïse annonce solennellement qu'il va se rendre à la montagne pour consulter Élohim et qu'il en rapportera la loi écrite sur une table de pierre. Il commande au peuple de veiller et de jeûner, de l'attendre dans la chasteté et la prière. Il laisse l'arche portative que recouvre la tente du tabernacle sous la garde des 70 anciens. Puis il disparaît dans la gorge, n'emmenant avec lui que son fidèle disciple Josué. Des jours se passent. Moïse ne revient pas. Le peuple s'inquiète d'abord, puis il murmure. Pourquoi nous avoir emmenés dans cet affreux désert et nous avoir exposés aux traits des Amalécites? Moïse nous a promis de nous conduire au pays de Canaan, où coule le lait et le miel, et voici que nous mourons au désert. Mieux valait la servitude en Égypte que cette vie misérable. Plût à Dieu que nous eussions encore les plats de viande que nous mangions là-bas. Si le Dieu de Moïse est le vrai Dieu, qu'il le prouve, que tous ses ennemis soient dispersés et que nous entrions sur le champ au pays de promission. Ces murmures grossissent, on se mutine, les chefs s'en mêlent. Et voici venir un groupe de femmes qui chuchotent et murmurent entre elles. ce sont des filles de Moab, à la peau noire, corps souple, aux formes opulentes, concubines ou servantes de quelques chefs édomites associés à Israël. Elles se souviennent qu'elles ont été prêtresses d'Astaroth et qu'elles ont célébré les orgies de la déesse dans les bois sacrés du pays natal. Elles sentent que l'heure de reprendre leur empire est venue. Elles viennent parées d'or et d'étoffes voyantes, le sourire à la bouche, comme une troupe de beaux serpents qui sortent de terre et font chatoyer au soleil leurs formes onduleuses aux reflets métalliques. Elles se mêlent aux rebelles, les regardent de leurs yeux luisants, les enlacent de leurs bras où sonnent des anneaux de cuivre et les enjôlent dans leur langue dorée. Qu'est-ce après tout que ce prêtre d'Égypte est son dieu? Il sera mort au Sinaï. Les Réphaïm l'auront jeté dans un gouffre. Ce n'est pas lui qui mènera les tribus en Canaan. Mais que les enfants d'Israël invoquent les dieux de Moab, Belphégor et Astaroth. Ce sont des dieux qu'on peut voir, ceux-là, et qui font des miracles. Ils les mèneront au pays de Canaan. Les mutins écoutent les femmes moabites. Ils s'excitent les uns les autres et se crient par de la multitude. Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car pour ce qui est de Moïse qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Aaron essaie en vain de calmer la foule. Les filles de Moab appellent des prêtres phéniciens venus avec une caravane. Ceux-ci apportent une statue en bois d'Astaroth et l'élève sur un autel de pierre. Les rebelles forcent Aaron, sous menace de mort, à fondre le veau d'or, une des formes de Belphégor. On sacrifie des taureaux et des boucs aux dieux étrangers. On se met à boire et à manger. Et les danses luxurieuses, guidées par les filles de Moab, commencent autour des idoles, au son des nébels, des kinors et des tambourins, agités par les femmes. Les 70 anciens élus par Moïse pour la garde de l'arche ont vainement essayé d'arrêter ce désordre par leurs objurgations. Maintenant, ils s'assoient par terre, la tête couverte d'un sac de cendres. Serrés autour du tabernacle de l'arche, ils entendent avec consternation les cris sauvages, les chants voluptueux, les invocations aux dieux maudits, démons de luxure et de cruauté. Ils voient avec horreur ce peuple en route de joie et de révolte contre son Dieu. Que va devenir l'arche, le livre et Israël si Moïse ne revient pas? Cependant, Moïse revient. De son long recueillement, de sa solitude sur le mont d'Élohim, il rapporte la loi sur des tablettes de pierre. Entré dans le camp, il voit les danses, la bacchanale de son peuple, devant les idoles d'Astaroth et de Belphégor. À l'aspect du prêtre d'Osiris, du prophète d'Élohim, les danses s'arrêtent. Les prêtres étrangers s'enfuient, les rebelles hésitent. La colère bouillonne en Moïse comme un feu dévorant. Il brise les tables de pierre et l'on sent qu'il briserait ainsi tout ce peuple et que Dieu le possède. Israël tremble, mais les rebelles ont des regards de haine dissimulés sous la peur. Un mot, un geste d'hésitation de la part du chef prophète et l'hydre de l'anarchie idolâtre va dresser contre lui ses 1000 têtes et balayer sous une grêle de pierre l'arche sainte, le prophète et son idée. Mais Moïse est là et derrière lui, les puissances invisibles qui le protègent. Il comprend qu'il faut avant tout redresser l'âme des 70 élus à sa propre hauteur et par eux tout le peuple. Il invoque Elohim Yévé, l'esprit mâle, le feu principe, du fond de lui-même et du fond du ciel. « À moi les 70, s'écrie Moïse, qu'ils prennent l'arche et montent avec moi à la montagne de Dieu. Quant à ce peuple qui l'attend et qui tremble, je vais lui rapporter le jugement d'Élohim. Les Lévites enlèvent de dessous la tente l'arche d'or enveloppée de ses voiles, et le cortège des 70 disparaît avec le prophète dans les défilés du Sinaï. On ne sait qui tremble le plus, ou les Lévites de ce qu'ils vont voir, ou le peuple du châtiment que Moïse laisse suspendu sur sa tête comme une épée invisible. Ah, si l'on pouvait échapper aux mains terribles de ce prêtre d'Osiris, de ce prophète de malheur, disent les rebelles. Et hâtivement, la moitié du camp plie les tentes, saigne du chameau et se prépare à fuir. Mais voilà qu'à un crépuscule étrange, un voile de poussière s'étend sur le ciel. Une bise aigre souffle de la mer Rouge. Le désert prend une couleur fauve et blafarde, et derrière le Sinaï s'amoncellent de grosses nuées. Enfin, le ciel devient noir. Des coups de vent amènent des flots de sable, et des éclairs font crever en torrents de pluie les tourbillons de nuages qui enveloppent le Sinaï. Bientôt, la foudre reluit, et sa voix, répercutée par toutes les gorges du massif, éclate sur le camp en détonations successives avec un fracas épouvantable. Le peuple ne doute pas que ce soit la colère d'Élohim évoquée par Moïse. Les filles de Moab ont disparu. On renverse les idoles, les chefs se prosternent, les enfants et les femmes se cachent sous le ventre des chameaux. Cela dure toute une nuit, tout un jour. La foudre est tombée sur les tentes. Elle a tué des hommes et des bêtes, et le tonnerre gronde toujours. Vers le soir, la tempête s'apaise. Les nuages fument toujours sur le Sinaï, et le ciel reste noir. Mais voici qu'à l'entrée du camp reparaissent les 70, Moïse à leur tête. Et dans la vague lueur du crépuscule, le visage du prophète et celui de ses élus rayonnent d'une lumière surnaturelle, comme s'ils rapportaient sur leur face le reflet d'une vision éclatante et sublime. Sur l'arche d'or, sur les chérubes aux ailes de feu, oscille une lueur électrique, comme une colonne phosphorescente. Devant ce spectacle extraordinaire, les anciens et le peuple, hommes et femmes, se prosternent à distance. « Que ceux qui sont pour l'Éternel viennent à moi, » dit Moïse. Les trois quarts des chefs d'Israël se rangent autour de Moïse. Les rebelles restent cachés sous leur tente. Alors le prophète s'avance et ordonne à ses fidèles de passer au fil de l'épée les instigateurs de la révolte et les prêtresses d'Astaroth, afin qu'Israël tremble à jamais devant Élohim, qu'il se souvienne de la loi du Sinaï et de son premier commandement. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a tiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de choses qui sont là-haut dans les cieux, ni dans les eaux, ni sous la terre. » C'est par ce mélange de terreur et de mystère que Moïse imposa sa loi et son culte à son peuple. Il fallait imprimer l'idée de Yahvé en lettres de feu sur son âme, et sans ces mesures implacables, le monothéisme n'eût jamais triomphé du polythéisme envahissant de la Phénicie et de Babylone. Mais les 70, qu'avaient-ils vu sur le Sinaï? Le Deutéronome, chapitre 34, verset 2, parle d'une vision colossale, de milliers de saints apparus au milieu de l'orage, sur le Sinaï, dans la lumière de Yahvé. Les sages de l'ancien cycle, les antiques initiés des Aryas de l'Inde, de la Perse et de l'Égypte, tous les nobles fils d'Asia, la terre de Dieu, vinrent-ils assister Moïse dans son œuvre et exercer une pression décisive sur la conscience de ses associés. Les puissances spirituelles qui veillent sur l'humanité sont toujours là, mais le voile qui nous en sépare ne se déchire qu'aux grandes heures et pour de rares élus. Quoi qu'il en soit, Moïse fit passer dans les 70 le feu divin et l'énergie de sa propre volonté. Ils furent le premier temple avant celui de Salomon. Le temple vivant, le temple en marche, le cœur d'Israël, lumière royale de Dieu. Par les scènes du Sinaï, par l'exécution en masse des rebelles, Moïse acquit une autorité sur les sémites nomades qu'il tenait sous sa main de fer. Mais des scènes analogues, suivies de nouveaux coups de force, durent se reproduire pendant les marches et les contre-marches vers le pays de Canaan. Comme Mahomet, Moïse dut déployer à la fois le génie d'un prophète, d'un homme de guerre et d'un organisateur social. Il eut à lutter contre les lassitudes, les calomnies, les conspirations. Après la révolte populaire, il eut à terrasser l'orgueil des prêtres lévites qui voulaient égaler leur rôle au sien, se donner comme lui pour les inspirer directes de Yahvé, ou les conspirations plus dangereuses de quelques chefs ambitieux comme Corée, Dathan et Abiram, fomentant l'insurrection populaire pour renverser le prophète et proclamer un roi, ainsi que le feront plus tard les Israélites avec Saül, malgré la résistance de Samuel. Dans cette lutte, Moïse a des alternatives d'indignation et de pitié, des tendresses de père et des rugissements de lion contre le peuple qui se débat sous l'étreinte de son esprit et qui malgré tout le suivra. Nous en trouvons l'écho dans les dialogues que le récit biblique établit entre le prophète et son Dieu, dialogue qui semble révéler ce qui se passait au fond de sa conscience. Dans le Pentateuque, Moïse triomphe de tous les obstacles par des miracles plus qu'invraisemblables. Jéhovah, conçu comme un Dieu personnel, est toujours à sa disposition. Il apparaît sur le tabernacle comme une nuée brillante qui s'appelle la gloire du Seigneur. Moïse seul peut y entrer. Les profanes qui s'en approchent sont frappés de mort. Le tabernacle d'assignation qui renferme l'arche joue dans le récit biblique le rôle d'une gigantesque batterie électrique qui, une fois chargée du feu de Jéhovah, foudroie des masses humaines. Les fils d'Aaron, les 250 adhérents de Corée et de Dathan, enfin 14 000 hommes du peuple en sont tués du coup. De plus, Moïse provoque à heure fixe un tremblement de terre qui engloutit les trois chefs révoltés avec leurs tentes et leurs familles. Ce dernier récit est d'une poésie terrible et grandiose, mais il est empreint d'une telle exagération, d'un caractère si visiblement légendaire qu'il serait puéril d'en discuter la réalité. Ce qui, par-dessus tout, donne un caractère exotique à ces récits, c'est le rôle de Dieu irascible et changeant qui joue Jéhovah. Il est toujours prêt à fulminer et à détruire, tandis que Moïse représente la miséricorde et la sagesse. Une conception aussi enfantine, aussi contradictoire de la divinité, n'est pas moins étrangère à la conscience d'un initié d'Osiris qu'à celle d'un Jésus. Et cependant, ces colossales exagérations paraissent provenir de certains phénomènes dus au pouvoir magique de Moïse et qui ne sont pas sans analogue dans la tradition des peuples antiques. C'est ici le lieu de dire ce qu'on peut croire des soi-disant miracles de Moïse au point de vue d'une théosophie rationnelle et des points élucidés de la science occulte. La production de phénomènes électriques sous diverses formes par la volonté de puissants initiés, n'est pas seulement attribué à Moïse par l'Antiquité. La tradition chaldéenne l'attribuait aux mages, la tradition grecque et latine à certains prêtres de Jupiter et d'Apollon. En pareil cas, les phénomènes sont bien de l'ordre électrique. Mais l'électricité de l'atmosphère terrestre y serait mise en mouvement par une force plus subtile et plus universelle, partout répandue, et que les grands adeptes s'entendraient à attirer, à concentrer et à projeter. Cette force est appelée Akasa par les Brahmanes, feu-principe par les mages de la Chaldée, grand agent magique par les kabbalistes du Moyen-Âge. Au point de vue de la science moderne, on pourrait l'appeler force éthérée. On peut soit l'attirer directement, soit l'évoquer par l'intermédiaire des agents invisibles, conscients ou semi-conscients, dont regorge l'atmosphère terrestre et que la volonté des mages cesse à servir. Cette théorie n'a rien de contraire à une conception rationnelle de l'univers, et même elle est indispensable pour expliquer une foule de phénomènes qui, sans cela, demeureraient incompréhensibles. Il faut ajouter seulement que ces phénomènes sont régis par des lois immuables et toujours proportionnées à la force intellectuelle, morale et magnétique de l'adepte. Une chose antirationnelle et antiphilosophique serait la mise en mouvement de la cause première, de Dieu par un être quelconque, ou l'action immédiate de cette cause par lui, ce qui reviendrait à une identification de l'individu avec Dieu. L'homme ne s'élève que relativement à lui par la pensée ou par la prière, par l'action ou par l'extase. Dieu n'exerce son action dans l'univers qu'indirectement et hiérarchiquement par les lois universelles et immuables qui exprime sa pensée, comme à travers les membres de l'humanité terrestre et divine qui le représentent partiellement et proportionnellement dans l'infini de l'espace et du temps. Ces points posés, nous croyons parfaitement possible que Moïse, soutenu par les puissances spirituelles qui le protégeaient, émanant la force éthérée avec une science consommée, ait pu se servir de l'arche comme d'une sorte de réceptacle, de concentrateur attractif pour la production de phénomènes électriques d'un caractère foudroyant. Il s'isolait, lui, ses prêtres et affidés, par des vêtements de lin et des parfums qui le défendaient des décharges du feu éthéré. Mais ces phénomènes ne purent être que rares et limités. La légende sacerdotale les exagéra. Il dut suffire à Moïse de frapper de mort quelques chefs rebelles ou quelques lévites désobéissants par une telle projection de fluide pour terroriser et mater tout le peuple. Chapitre 6. La mort de Moïse. Quand Moïse eut conduit son peuple jusqu'à l'entrée de Canaan, il sentit que son œuvre était accomplie. Qu'était-ce que Yévé Elohim pour le voyant du Sinaï? L'ordre divin du haut en bas, à travers toutes les sphères de l'univers, est réalisé sur la terre visible, à l'image des hiérarchies célestes et de l'éternelle vérité. Non, il n'avait pas contemplé en vain la face de l'Éternel qui se réfléchit dans tous les mondes. Le livre était dans l'arche, et l'arche, gardée par un peuple fort, temple vivant du Seigneur. Le culte du Dieu unique était fondé sur la terre. Le nom de Yévé brillait en lettres flamboyantes dans la conscience d'Israël. Les siècles pourront rouler leur flot dans l'âme changeante de l'humanité, ils n'en effaceront plus le nom de l'Éternel. Moïse, ayant compris ces choses, invoqua l'ange de la mort. Il imposa les mains à son successeur, Josué, devant le tabernacle d'assignation, afin que l'Esprit de Dieu passât en lui, puis il bénit toute l'humanité à travers les 12 tribus d'Israël et gravit le mont Nebo, suivi seulement de Josué et de 2 Lévites. Déjà, Aaron avait été recueilli vers ses pères. La prophétesse Marie avait pris le même chemin. Le tour de Moïse était venu. Quelles furent les pensées du prophète centenaire lorsqu'il vit disparaître le camp d'Israël et qu'il monta dans la grande solitude d'Élohim? Qu'éprouva-t-il en promenant ses yeux sur la terre promise, de Galaad à Jéricho, la ville des palmes? Un vrai poète, peignant en maître cette situation d'âme, lui fait pousser ce cri. « Ô Seigneur, j'ai vécu puissant et solitaire. Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre. » Ces beaux vers d'Alfred de Vigny en disent plus sur l'âme de Moïse que les commentaires d'une centaine de théologiens. Cette âme ressemble à la grande pyramide de Gizeh, massive, nue et close au dehors, mais qui renferme les grands mystères dans son intérieur et porte à son centre un sarcophage appelé par les initiés le sarcophage de la résurrection. De là, par un couloir oblique, on apercevait l'étoile polaire. Ainsi, cet esprit impénétrable regardait de son centre le but final des choses. Oui, tous les puissants ont connu la solitude que crée la grandeur. Mais Moïse fut plus seul que les autres parce que son principe fut plus absolu, plus transcendant. Son Dieu fut le principe mâle par excellence, l'esprit pur. Pour l'inculquer aux hommes, il dut déclarer la guerre au principe féminin, à la déesse nature, à Évé, à la femme éternelle qui vit dans l'âme de la terre et dans le cœur de l'homme. Il dut la combattre sans trêve et sans merci, non pour la détruire, mais pour la soumettre et la dompter. Quoi d'étonnant si la nature et la femme, entre lesquelles règne un pacte mystérieux, tremblaient devant lui? Quoi d'étonnant si elles se réjouissaient de son départ et attendaient pour relever la tête que l'ombre de Moïse eût cessé de jeter sur elles le pressentiment de la mort? Telles furent sans doute les pensées du voyant, tandis qu'il montait le stérile mont Nebo. Les hommes ne pouvaient l'aimer, car ils n'avaient aimé que Dieu. Son œuvre vivrait-elle du moins? Son peuple resterait-il fidèle à sa mission? Ah, fatale clairvoyance des mourants, don tragique des prophètes, qui soulèvent tous les voiles à l'heure dernière. À mesure que l'esprit de Moïse se détachait de la terre, il vit la terrible réalité de l'avenir. Il vit les trahisons d'Israël, l'anarchie redressant la tête, la royauté succédant aux juges, les crimes des rois souillant le temple du Seigneur, son livre mutilé, incompris, sa pensée travestie, rabaissé par des prêtres ignorants ou hypocrites, les apostasies des rois, l'adultère de Judas avec les nations idolâtres, la pure tradition, la doctrine sacrée étouffée, et les prophètes possesseurs du Verbe vivant persécutés jusqu'au fond du désert. Assis dans une caverne du mont Nebo, Moïse vit tout cela en lui-même. Mais déjà la mort étendait son aile sur son front et posait sa main froide sur son cœur. Alors ce cœur de lion essaya de rugir encore une fois. Irrité contre son peuple, Moïse appela la vengeance d'Élohim sur la race de Juda. Il leva son bras pesant. Josué et les Lévites qui l'assistaient entendirent avec épouvante ces paroles sortirent de la bouche du prophète mourant. Israël a trahi son Dieu. Qu'il soit dispersé aux quatre vents du ciel. Cependant, les Lévites et Josué regardaient avec terreur leur maître qui ne donnait plus signe de vie. Sa dernière parole avait été une malédiction. Avait-il rendu le dernier soupir avec elle? Mais Moïse ouvrit les yeux une dernière fois et dit « Retournez vers Israël. Quand les temps seront venus, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi d'entre vos frères, et il mettra son verbe dans sa bouche. Et ce prophète vous dira tout ce que l'Éternel lui aura commandé. Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas les paroles qu'il vous aura dites, l'Éternel lui en demandera compte. » Deutéronome, chapitre 18, versets 18-19. Après ces paroles prophétiques, Moïse rendit l'esprit. L'ange solaire au glaive de feu, qui d'abord lui était apparu au Sinaï, l'attendait. Il l'entraîna dans le sein profond de l'Isis céleste, dans les ondes de cette lumière qui est l'épouse de Dieu. Loin des régions terrestres, ils traversèrent des cercles d'âmes d'une splendeur grandissante. Enfin, l'ange du Seigneur lui montra un esprit d'une beauté merveilleuse et d'une douceur céleste, mais d'une telle radiance et d'une clarté si fulgurante que la sienne propre n'était qu'une ombre auprès. Il ne portait pas le glaive du châtiment, mais la palme du sacrifice et de la victoire. Moïse comprit que celui-là accomplirait son œuvre et ramènerait les hommes vers le Père par la puissance de l'Éternel féminin, par la grâce divine et par l'amour parfait. Alors, le législateur se prosterna devant le Rédempteur et Moïse adora Jésus-Christ.